accompli. Où l'on entre dans l'édifice, l'on découvre un visiteur mystérieux, l'on trouve un message secret avec des signes de nécromant et disparaît à peine trouvé un livre qui sera ensuite recherché pendant bien d'autres chapitres et vicissitude qui n'est pas la dernière, où l'on vole les précieux vers de Guillaume. Le souper fut triste et silencieux. Un peu plus de 12 heures étaient passées depuis qu'on avait découvert le cadavre de Venantius. Tous regardaient à la dérobée sa place vide à table. Quand ce fut l'heure de Compli, le cortège qui se rendit dans le chœur avait l'allure d'un défilé funèbre. Nous participâmes à l'office, placés dans la nef, et ne perdant pas de vue la troisième chapelle. L'éclairage était faible, et lorsque nous vîmes Malachi émerger de l'obscurité pour rejoindre sa stalle, nous ne pûmes comprendre d'où il sortait exactement. Par précaution, nous nous glissâmes dans l'ombre, nous cachant dans la nef latérale, pour que personne ne vît que nous restions là, l'office terminé. J'avais dans mon scapulaire la lampe dérobée à la cuisine pendant le souper. Nous l'allumerions ensuite au grand trépied de bronze qui brûlait toute la nuit. J'apportais une mèche neuve et beaucoup d'huile. Nous aurions de la lumière pour un long temps. J'étais trop excité par ce que nous nous apprêtions à faire pour accorder la moindre attention au rite qui finit sans que je m'en aperçusse ou presque. Les moines rabattirent leurs capuchons sur leur visage et sortirent en lente colonne pour se rendre dans leurs cellules. L'église resta déserte, éclairée par les lueurs du trépied. « Allons, » dit Guillaume, « au travail. » Nous nous approchâmes de la troisième chapelle. La base de l'autel était vraiment semblable à un ossuaire. Une série de crânes aux orbites vides et profondes inspirait la peur à qui les regardait, posés comme ils apparaissaient dans l'admirable relief sur un monceau de tibia. Guillaume répéta à voix basse les paroles qu'il avait entendues de la bouche d'Alinardo. « Quatrième crâne à droite, enfonce les yeux. » Il introduisit les doigts dans les orbites de ce visage décharné et aussitôt nous entendîmes comme un grincement rauque. L'autel bougea, tournant sur un pivot secret, et laissa entrevoir une ouverture noire. Comme j'élevais ma lampe pour l'éclairer, nous aperçûmes des escaliers humides. Nous décidâmes de les descendre, après avoir discuté si nous devions refermer le passage derrière nous. « Il ne valait mieux pas, » dit Guillaume. Nous ne savions pas si nous aurions pu le rouvrir après. Et quant au risque d'être découvert, si quelqu'un parvenait à cette heure-là à manœuvrer le même mécanisme, c'était parce qu'il savait comment entrer et un passage fermé ne l'aurait pas arrêté. Nous descendîmes une bonne dizaine de marches et pénétrâmes dans un couloir où s'ouvraient de chaque côté des niches horizontales, comme il m'arriva de voir plus tard dans de nombreuses catacombes. Mais c'était la première fois que je pénétrais dans un ossuaire et je fus glacé d'effroi. Les os des moines avaient été recueillis là au cours des siècles, exhumés d'abord et amassés dans les niches sans qu'on tentât de recomposer la forme de leur corps. Cependant, certaines niches n'étaient remplies que d'eau menue, d'autres que de crânes bien disposés presque en pyramide, de façon à ne pas rouler les uns sur les autres, et c'était en vérité un spectacle terrifiant, surtout avec le jeu d'ombre et de lumière que la lampe projetait le long de notre chemin. Dans une niche, je ne vis que des mains, une quantité énorme de mains, désormais irrémédiablement entrelacées dans un enchevêtrement de doigts morts. Je poussai un cri dans ce lieu de mort, éprouvant un instant la sensation de quelque chose de vivant, un couinement et un mouvement éclair dans l'ombre. « Des rats, » me rassura Guillaume. « Que font ici ces rats ? Ils passent comme nous, car l'ossuaire conduit à l'édifice et donc aux cuisines, et aux bons livres de la bibliothèque. Maintenant, tu comprends pourquoi Malachi a un visage aussi austère. Ses fonctions l'obligent à passer par ici 2 fois par jour, le soir et le matin. Il n'a certes pas matière à rire, lui. Mais pourquoi l'Évangile ne dit-il jamais que Christ riait ? Demandai-je un peu sans raison. En va-t-il vraiment, comme dit Rolré ? Ils ont été légion, ceux qui se sont demandé si Christ a jamais ri. La chose ne m'intéresse pas beaucoup. Je crois qu'il n'a jamais ri, car, omniscient comme devait l'être le Fils de Dieu, il savait ce que nous ferions, nous, les chrétiens. Mais nous voilà arrivés. Et en effet, grâce à Dieu, le couloir prenait fin. Une nouvelle série de marches commençait, et les ayant parcourues, nous n'eûmes plus qu'à pousser une porte de bois massif renforcée de fer. Nous nous trouvâmes derrière la cheminée des cuisines, juste sous l'escalier à vis qui montait au scriptorium. Tandis que nous montions, nous eûmes l'impression d'entendre un bruit venant d'en haut. Nous restâmes un instant en silence, puis je dis « C'est impossible. Personne n'est entré avant nous. » En admettant que cette voie soit la seule qui mène à l'édifice. Dans les siècles passés, c'était là une forteresse, et il doit y avoir plus d'accès secret que nous n'imaginons. Montons doucement, mais nous n'avons pas le choix. Si nous éteignons la lampe, nous ne savons pas où nous allons. Si nous la gardons allumée, nous donnons l'alarme qui se trouve en haut. Notre unique espoir est que, s'il y a quelqu'un, il ait plus peur que nous. Nous arrivâmes dans le scriptorium en émergeant de la tour méridionale. La table de Venantius se trouvait juste du côté opposé. En nous déplaçant, nous n'éclairions pas plus que quelques brasses de mur à la fois, car la salle était trop vaste. Nous espérâmes que personne ne fût dans la cour et ne vit la lumière transparaître aux verrières. La table paraissait en ordre, mais Guillaume se pencha aussitôt pour examiner les feuilles sur l'étagère du dessous et poussa une exclamation de désappointement. « Il manque quelque chose ? » demandai-je. « Aujourd'hui, j'ai vu ici deux livres, et l'un était en grec. Et c'est celui-ci qui manque. Quelqu'un l'a distrait, et en toute hâte, car on a laissé ici un parchemin tombé à terre. Mais la table était gardée. Certes. Peut-être quelqu'un vient-il tout juste d'y fourrager. Peut-être est-il encore ici. » Il se tourna vers les ombres et sa voix résonna entre les colonnes.
« Si tu es là, attention à toi !»
Ce me sembla une bonne idée. Comme Guillaume l'avait déjà dit, il est toujours préférable que celui qui nous inspire de la peur ait plus peur que nous. Guillaume posa la feuille qu'il avait trouvée au pied de la table et en approcha son visage. Il me demanda de l'éclairer. Je tendis la lampe et aperçus une page à moitié blanche dans sa partie supérieure et dans la seconde moitié, couverte de caractères si minuscules que je n'en reconnus qu'à peine l'origine. « C'est du grec ? » demandai-je. « Oui, mais je ne comprends pas bien. » Il tira ses vers de sa coule et les mit solidement en selle sur son nez, après quoi il pencha davantage encore son visage. « C'est du grec, écrit tout petit et de façon désordonnée. Même avec les vers, je peine à lire. Il faudrait plus de lumière. Approche-toi. » Il avait pris la feuille, la tenant à hauteur de son nez, et moi, comme un sceau, au lieu de passer derrière lui en tenant la lampe haut au-dessus de sa tête, je me plaçais juste devant lui. Il me demanda de me déplacer sur le côté, et ce faisant, j'effleurais de la flamme le verso de la feuille. Guillaume me chassa d'une bourrade en me demandant si je voulais brûler le manuscrit, puis il eut une exclamation. Je vis nettement que dans le haut de la page étaient apparus quelques signes imprécis d'une couleur jaune-brun. Guillaume se fit donner la lampe et la passa derrière la feuille, tenant la flamme suffisamment proche de la surface du parchemin pour qu'elle le réchauffe sans toutefois le lécher. Manet, Tessel, Pharès. Vis-je se dessiner sur le côté blanc de la feuille, l'un après l'autre, au fur et à mesure que Guillaume déplaçait la lumière, et tandis que la fumée qui sinuait au sommet de la flamme noircissait le recto, des traits qui ne ressemblaient à ceux d'aucun alphabet, si ce n'est à celui des nécromants. « Fantastique !» dit Guillaume. « De plus en plus intéressant !» Il regarda autour de lui. « Mais il vaudra mieux ne pas exposer cette découverte aux embûches de notre hôte mystérieux, s'il est encore ici. » Il ôta ses vers et les posa sur la table, puis il enroula avec soin le parchemin et le cacha dans sa coule. Encore abasourdi par cette suite d'événements pour le moins miraculeux, j'allais lui demander d'autres explications quand un bruit soudain et sec fit diversion. Il provenait du pied de l'escalier oriental qui menait à la bibliothèque. « Notre homme est là, prends-le !» cria Guillaume. Et nous nous jetâmes dans cette direction, lui plus rapide, moi plus lent, parce que je portais la lampe. J'entendis un fracas de personnes qui achoppent et tombent, j'accourus, Je trouvais Guillaume au pied de l'escalier qui observait un lourd volume à la couverture renforcée de broquettes métalliques. Au même instant, nous entendîmes un autre bruit provenant de la direction d'où nous étions venus.
« Sot que je suis !» cria Guillaume. « Vite, à la table de Venansus !»
Je compris. Quelqu'un qui se trouvait dans l'ombre derrière nous avait lancé le volume pour nous appâter le plus loin possible. Encore une fois, Guillaume fut plus rapide et atteignit la table avant moi. En le suivant, j'entrevis au milieu des colonnes une ombre qui s'enfuyait en enfilant l'escalier de la tour occidentale. Pris d'une ardeur guerrière, je mis la lampe dans la main de Guillaume et me précipitai à l'aveuglette vers l'escalier par où était descendu le fuyard. À ce moment-là, je me sentais comme un soldat de Christ en lutte avec toutes les légions infernales et j'ardais du désir de mettre les mains sur l'inconnu pour le remettre à mon maître. Je dégringolais presque littéralement les escaliers à vis en me prenant les pieds dans les pans de ma robe. Ce fut l'unique moment de ma vie, je le jure, où je regrettais d'être entré dans un ordre monastique. Mais au même instant, et ce fut une pensée éclair, je me consolais à l'idée que mon adversaire aussi devait souffrir d'une pareille entrave. Et en plus, s'il avait dérobé le livre, il devait avoir les mains occupées. Je me précipitai presque la tête la première dans les cuisines, derrière le four à pain, et, à la lumière blafarde de la nuit étoilée qui éclairait le vaste passage, je vis l'ombre que je suivais prendre la porte du réfectoire et la tirer derrière elle. Je fonçai vers cette porte, peinai quelques secondes pour l'ouvrir, entrai, regardai autour de moi, et je ne vis plus personne. La porte qui donnait sur l'extérieur était encore barrée. Je me retournai, ombre et silence. J'aperçus une lueur qui venait de la cuisine et m'adossai à un mur. Sur le seuil de passage entre les deux salles, apparut une silhouette éclairée par une lampe. Je criai. C'était Guillaume.
« Il n'y a plus personne ?»
Je le prévoyais. « Il n'est pas sorti par une porte. Il n'a pas pris par le passage de l'ossuaire ?»«
Non, il est sorti par ici, mais je ne sais pas par où. » »«
Je te l'ai dit, il y a d'autres passages, et il est inutile que nous les cherchions. Il est probable qu'en ce moment, notre homme émerge de nouveau quelque part loin d'ici, et avec lui mes vers. »«
Vos vers ?»«
Précisément mes vers. » Notre ami n'a pas pu me voler la feuille, mais, avec une grande présence d'esprit, en passant, il s'est emparé de mes vers qui étaient sur la table.
Et pourquoi ?
Parce que ce n'est pas un idiot. Il m'a entendu parler de ses notes, il a compris qu'elles étaient importantes. Il a pensé que sans mes vers, je ne serais pas en mesure de les déchiffrer et il tient pour sûr que je ne me fierais de les montrer à personne. De fait, à présent, c'est comme si je ne les avais pas.
Mais comment connaissait-il l'existence de vos vers ?
Allons, à part le fait que nous en avons parlé hier avec le maître verrier, ce matin, je les ai chaussés dans le scriptorium pour fouiller dans les affaires de Venantius. De nombreuses personnes pourraient donc savoir combien ces objets m'étaient précieux, et de fait, je pourrais même lire un manuscrit normal, mais pas celui-ci. Il déroulait de nouveau le mystérieux parchemin, où la partie en grec est trop petite et la partie supérieure trop incertaine. Il me montra les signes mystérieux qui étaient apparus, comme par enchantement, à la chaleur de la flamme. Venantius voulait cacher un secret important, et il s'est servi d'une de ces encres qui écrivent sans laisser de traces et réapparaissent à la chaleur. Ou bien, il a utilisé du jus de citron. Mais comme je ne sais pas de quelle substance il a usé et que les signes pourraient redisparaître, vite, toi qui as de bons yeux, transcris-les tout de suite de la façon la plus fidèle possible, et même si tu peux, un tantinet plus grand. »
Ainsi fis-je, sans savoir ce que je copiais. Il s'agissait d'une série de 4 ou 5 lignes, en vérité, relevant de la sorcellerie. Lorsque je les eus copiées, Guillaume regarda, malheureusement sans verre, tenant ma tablette à une bonne distance de son nez.
« C'est certainement un alphabet secret qu'il faudra déchiffrer, » dit-il. Les signes sont mal tracés, et peut-être les as-tu recopiés, pire encore, mais il s'agit à coup sûr d'un alphabet zodiacal. Tu vois ? Dans la première ligne, nous avons... »
Il éloigna encore la feuille de lui, plissa les yeux avec un effort de concentration.
Sagittaire, Soleil, Mercure, Scorpion.
Et qu'est-ce que cela signifie ? Si Venantius avait été un ingénu, il aurait utilisé l'alphabet zodiacal le plus commun. A égale Soleil, B égale Jupiter. La première ligne se lirait alors... Essaie de transcrire. R, A, I, Q, A, S, V, L. Il s'interrompit. Non, ça ne veut rien dire. Et Venantius n'était pas un ingénu. Il a reformulé l'alphabet selon une autre clé. Il faudra que je la découvre. Est-ce possible ? Demandai-je, ébloui. Oui, si l'on connaît un peu de la science des Arabes. Les meilleurs traités de cryptographie sont l'œuvre de savants infidèles, et à Oxford, j'ai pu m'en faire lire quelques-uns. Bacon avait raison de dire que la conquête du savoir passe par la connaissance des langues. Abou Bakr Ahmad Ben Ali Ben Washiya An-Nabati a écrit, il y a des siècles, un livre du désir frénétique du dévot d'apprendre les énigmes des anciennes écritures. Et il a exposé de nombreuses règles pour composer et déchiffrer des alphabets mystérieux, bon pour des pratiques de magie, mais aussi pour la correspondance entre les armées ou entre un roi et ses propres ambassadeurs. J'ai vu d'autres livres arabes qui énumèrent une série d'artifices fort ingénieux. Tu peux, par exemple, substituer une lettre à une autre. Tu peux écrire un mot à l'envers. Tu peux mettre les lettres dans l'ordre inverse, mais en en prenant une sur deux, et puis en recommençant depuis le début. Tu peux, comme dans le cas présent, remplacer les lettres par des signes zodiacaux, mais en attribuant aux lettres cachées leur valeur numérique et ensuite, selon un autre alphabet, convertir les nombres en d'autres lettres. Et lequel de ces systèmes aura utilisé Venantius ? Il faudrait les essayer tous et d'autres encore. Mais la première règle pour déchiffrer un message, c'est de deviner ce qu'il veut dire. Mais alors, il n'y a plus besoin de le déchiffrer ? Ris-je. Pas précisément. On peut cependant formuler des hypothèses sur les mots qui pourraient être les premiers du message et ensuite voir si la règle qu'on en infère vaut pour tout le reste de l'écrit. Par exemple, ici Venantius a certainement noté la clé pour pénétrer dans le Finis Africae. Si j'essaie de penser que le message parle de cela, voilà qu'à l'improviste, un rythme m'éclaire. Essaie de regarder les trois premiers mots. Ne tiens pas compte des lettres. Considère seulement le nombre des signes. Maintenant, essaie de les diviser en syllabes, d'au moins deux signes chacune, et récite à voix haute « ta, 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 ta. » Cela ne te rappelle rien ? À moi, non. Et à moi, si. « Secretum finis Africae. » Mais s'il en allait ainsi, le dernier mot devrait avoir la première et la sixième lettre égales. Et de fait, c'est ainsi. Voilà deux fois le symbole de la Terre. Et la première lettre du premier mot, le S, devrait être identique à la dernière du second. Et de fait, voilà répété le signe de la Vierge. C'est peut-être la bonne voie. Il pourrait aussi ne s'agir que d'une série de coïncidences. Il faut trouver une règle de correspondance. La trouver où ? Dans sa tête. L'inventer, et puis contrôler si c'est la bonne. Cependant, entre un essai et un autre, le jeu pourrait me prendre une journée entière. Pas davantage, car souviens-toi, il n'y a aucune écriture secrète qui ne puisse être déchiffrée avec un peu de patience. Mais à présent, nous risquons de trop nous attarder, et nous voulons visiter la bibliothèque, d'autant que, sans verre, je ne réussirai jamais à lire la seconde partie du message, et toi... Tu ne peux m'aider parce que ces signes, à tes yeux, crae cum est non legitur, complétais-je humilié. Justement. Et tu vois que Bacon avait raison. Et tu dis. Mais ne perdons pas courage. Remisons le parchemin et tes notes et montons à la bibliothèque, car ce soir, 10 légions infernales même ne parviendront pas à nous retenir. Je fis le signe de la croix. Mais... Qui a bien pu nous précéder ici ? Banse ? Banse brûlait d'envie de savoir ce qu'il y avait dans les affaires de Venantius. Mais il ne me semblait pas avoir la tête à nous jouer des tours aussi malicieux. Au fond, il nous avait proposé une alliance, et puis il m'avait l'air de manquer de courage pour entrer la nuit dans l'édifice. Alors, B Béranger ou Malaki ? Béranger m'a tout l'air d'avoir la trempe de faire des choses de ce genre-là. Au fond, il est co-responsable de la bibliothèque. Il est rongé par le remords d'en avoir trahi quelques secrets. Il jugeait que Venantius avait distrait ce livre et voulait sans doute le reporter à la place d'où il vient. Il n'a pas réussi à monter. À présent, il cache le volume quelque part et nous pourrons le cueillir sur le fait si Dieu nous assiste quand il tentera de le remettre en place. Mais ce pourrait être aussi Malaki, mu par les mêmes intentions. Je ne pense pas. Malaki avait eu tout le temps qu'il voulait pour farfouiller dans la table de Venantius quand il est resté seul pour fermer l'édifice. Je le savais très bien, et je n'avais pas moyen de l'éviter. À présent, nous savons qu'il ne l'a pas fait. Et si tu y réfléchis bien, nous n'avons pas de motif pour soupçonner que Malaki savait que Venantius était entré dans la bibliothèque en y dérobant quelque chose. C'est ce que savent Béranger et Bantz. C'est ce que nous savons, toi et moi. À la suite de la confession d'Adelme, Jorge pourrait le savoir. Mais ce n'était certes pas lui, l'homme qui se précipitait avec une telle fougue dans l'escalier à vis. Alors, ou Béranger ou Bantz ? Et pourquoi pas Pacifico de Tivoli ou un autre des moines que nous avons vu ici aujourd'hui ? Ou Nicolas le Verrier, qui sait bien l'existence de mes lunettes ? Ou ce curieux personnage de Salvatore, qui, nous a-t-on dit, rôde la nuit à la recherche de qui sait quoi ? Nous devons veiller à ne point restreindre le champ des suspects, simplement parce que les révélations de Bantz nous ont orientés dans une seule direction. Bantz voulait peut-être nous embrouiller. Mais il vous a paru sincère.
Certes.
Souviens-toi pourtant que le premier devoir d'un bon inquisiteur, c'est celui de soupçonner d'abord ceux qui te semblent sincères.
Damné travail que celui d'inquisiteur, dis-je.
C'est bien pour ça que je l'ai abandonné. Et comme tu vois, il me faut le reprendre.
Mais du cœur, à la bibliothèque.